Des corps, de la bricole et un de ces merdiers. Sur Radio Piquet. Nico n'est pas là aujourd'hui, mais nous a envoyé un extrait d'une intervention de Youssef Bragmi du 14 mars dernier. Donc Youssef Bragmi, membre du comité Vérité et Justice pour Adama Traoré. Et c'était dans le cadre c'était à la Bourse du Travail, en fait, le 14 mars dernier, qu'il a fait ce discours-là. Ça s'appelait « Fin du grand débat, début du grand débat ». Et puis, on va l'écouter. Ça dure 10 minutes, quand même. On va l'écouter maintenant.
Le second intervenant va être Youssef Bragmi, militant de Vérité et Justice pour Adama. Merci beaucoup. À lui le micro. Merci.
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Youssef Bragmi, je suis membre du comité Vérité et Justice pour Adama Traoré. Le nom d'Adama Traoré, vous connaissez sûrement, c'est le nom d'un jeune noir citoyen français tué le jour de son anniversaire, le 19 juillet 2016, le jour de ses 24 ans. Il a été tué par 3 gendarmes de la République française. Il a été tué parce qu'il était noir, parce que c'était un habitant des quartiers populaires, et parce qu'il a voulu, il a refusé plutôt, de se soumettre à un contrôle au faciès illégal, un contrôle qui n'est basé que sur sa couleur de peau, et parce que c'était le jour de son anniversaire, parce qu'il n'avait pas sa carte d'identité sur lui, il a préféré partir. Pour ne pas finir comme d'habitude en humiliation et en brimade. Il l'a payé de sa vie. Il l'a payé de sa vie comme de nombreux autres jeunes, noirs et arabes tués en France entre les mains de la police ou de la gendarmerie de la République française. Ça date pas d'hier, ça date pas d'Adama Traoré. Ça ne date pas de Wissam El Yamni en 2012, ni de Lamine Dieng en 2007, ni de Ziad Ebouna en 2005, ni d'Abdelkader Bouzienne, 15 ans, tué d'une balle dans la nuque par des policiers de la BAC, la fameuse BAC qui est tant décriée aujourd'hui, mais ça fait longtemps qu'elle fait des victimes dans les quartiers populaires. Abdelkader Bouzienne, Damari Lélis, 15 ans, une balle dans la nuque, un enfant. Ça ne date pas de Malik Oussekine, comme ça a été dit. Depuis que les premiers immigrés venus d'Afrique, soit d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, ont posé les pieds en France, la police les tue. C'est ça la vérité. Pour nous, au comité Adama, l'année dernière, quand on a fait la marche, la deuxième marche pour Adama Traoré, on a fait une banderole et on a mis 2 dates fondatrices pour nous, politiques. On a demandé à notre graffeur, celui qui fait toutes nos banderoles, Vince, qui est un graffeur très talentueux, on lui a demandé de faire ces 2 dates. Ces 2 dates sont le 17 octobre 1961, 300 Algériens, encore eux, déjà à l'époque, 300 Algériens jetés à la Seine, sur qui on a tiré à balles réelles, certains ligotés, dont la plus jeune, Fatima Bédard, qui avait 14 ans, on l'a retrouvée avec son cartable, son corps flottant. Elle venait de Stein, 14 ans. Imaginez le policier qui l'a jeté à la Seine. Il l'a vu avec ses nattes et son cartable, il l'a jeté à la Seine pour vous montrer la haine, pour vous montrer ce qu'est le racisme, pour vous montrer ce qu'est la déshumanisation. Parce qu'il n'y a que la déshumanisation qui peut expliquer qu'on puisse tuer des enfants en France. Mais le plus grave, c'est pas ça pour moi. Et je le dis ici ce soir dans cette salle, où il y a une certaine homogénéité. C'est l'indifférence. C'est l'indifférence du reste de la société. C'est le fait qu'on ne veuille pas regarder, qu'on regarde ailleurs, et que ça fait très longtemps qu'on le fait. À chaque fois qu'il y a des crimes policiers ou des gendarmes, on préfère regarder ailleurs, je le dis clairement. On ne veut pas s'y confronter. On ne veut pas prendre le problème concrètement. On ne veut pas dire que ce sont déjà des Noirs et des Arabes qui sont morts. On utilise tous les termes du monde, sauf dire qu'ils sont Noirs et Arabes et qu'ils ont été ciblés pour ça. Parce qu'aujourd'hui, en France, il faut le dire, il y en a, bien sûr qu'il y a d'autres morts par la police, mais il y a une grosse différence. C'est qu'il y en a qui sont tués pour ce qu'ils sont et d'autres sont tués pour ce qu'ils font. Et ça fait une énorme différence. Quand le mouvement des Gilets jaunes a commencé, quand la médiatisation autour des violences policières a commencé, nous on l'a dit tout de suite, les flashballs, les LBD, les grenades de deuxième encerclement, la BAC, on n'a pas besoin de manifester pour qu'elles viennent nous mutiler ou nous tuer. On n'a pas besoin. Juste notre existence dans l'espace public, dans nos quartiers, c'est déjà une raison suffisante pour la BAC et pour la police pour venir nous réprimer, nous éborgner, nous mutiler ou nous tuer. On n'a même pas besoin de se mettre en mouvement, ni de menacer qui que ce soit. C'est juste nous, nos gueules, notre existence qui est un problème. Quand les Gilets jaunes ont commencé, nous on s'est dit tout de suite, on va y aller. Tout le monde était contre nous. Tout le monde était choqué. Ils se sont dit, mais ils sont devenus fous. Que va faire le comité Adama là-dedans? Ils n'étaient pas avec nous en 2005. Ils ne parlent pas de la question raciale. Ils ne parlent pas des quartiers populaires. Mais moi, je leur ai dit, mais c'est pas à eux que j'en veux. C'est pas à ces pauvres gens. Moi, j'ai vu la misère. C'est des gens qui n'ont plus rien. C'est des gens qui ne sont plus rien, qu'on a réduit à rien. Moi, je dis, c'est avec eux que je veux militer, c'est avec eux que je veux me battre. Mon problème, et ça a toujours été ça, ça a toujours été une constante dans ma vie militante, et j'ai milité depuis très longtemps, depuis que je suis adolescent, dans mon quartier à Bagnolet, ça a toujours été la gauche, et je le dis. Toujours été la gauche. Ça a toujours été un problème dans ce pays. Moi, je vous le dis, ceux que j'ai toujours eu en face de moi, qui ont toujours été dans le déni, notamment du racisme, ce sont des pseudos. Personnes de gauche, des pseudo-intellectuels, des pseudo-partis qui ont osé se dire de gauche. Je le dis très clairement. Et ce sont les mêmes, comme par hasard, qui ont eu un discours méprisant, ultra méprisant envers les Gilets jaunes. Ce qui nous a renforcés dans notre volonté de rejoindre cela. On va avec eux. Au début, on nous a dit, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? C'est pas le sujet des violences policières. On a dit, faites-nous confiance, vous allez voir. Ce mouvement, il est tellement inédit. Il vient de la base, il vient tellement de loin qu'il va tout renverser sur son passage. Et forcément, la question des violences policières va devenir centrale. Forcément, la question des violences policières va être sur la table parce qu'ils vont le devoir réprimer. Ils vont devoir les mater. Parce que là, ils sont à deux doigts de le faire. Et que s'est-il passé à l'acte 12? Le comité Adama, avec d'autres collectifs de familles de victimes comme Aliziri, collectif Aliziri, collectif Gay Camara, donc tout ça, ce sont des gens, des personnes qui ont été tuées par la police, et ben on s'est retrouvés dans une marche où le mot d'ordre de la marche, c'était contre les violences policières. À l'acte 12, tous ceux qui nous prenaient de haut. Aujourd'hui, il faut le savoir, quand on parle d'État autoritaire, il faut faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, on parle de dictature, on parle d'État autoritaire, on parle de répression, etc. Mais attention, j'ai l'impression que le fascisme ou l'autoritarisme, c'est une question de degré, ça dépend de qui ça touche. Parce que nous, ça fait longtemps que l'État autoritaire, on se le prend dans la gueule. Ça fait longtemps qu'on peuple les prisons. Ça fait longtemps qu'on peuple les morgues aussi. Donc l'État autoritaire, ça fait très longtemps qu'on le dénonçait. Et justement, ces mêmes élites qui se disaient de gauche nous prenaient de haut, nous disaient arrêtez d'exagérer, arrêtez d'en rajouter. Aujourd'hui, tout le monde dit que Macron est un gouvernement autoritaire. Mais pour nous, Sarkozy, Hollande, Macron, ça ne fait aucune différence. Sachez-le. Aucune. Aucune. Parce que quand le comité Adama s'est mis en marche, quand il s'est mis debout, quand dès les premiers jours, il y a eu des révoltes, parce que c'est des révoltes légitimes comme celle de 2005, il n'y a pas plus légitime que de se révolter quand un des vôtres a été tué impunément, injustement. Quand ces révoltes ont commencé, il y a eu une répression considérable. Il faut le savoir, j'espère que vous le savez tous, qu'aujourd'hui, il y a 4 frères d'Adama Traoré qui sont en prison, que leur frère a été tué, aujourd'hui, ils sont en prison, ils sont à Bois d'Arcy, ils sont à Ouni, ils sont à Meaux, ils sont à Villepinte. Sachez-le, ils ont perdu leur frère, retenez bien, en 2016. Depuis, ils ont tous été en prison les uns après les autres, parce qu'ils ont osé se mettre debout, parce qu'ils ont osé dire non. Et je vous dis pas tout, je ne vous dis pas tout sur ce que fait cet État à la famille Traoré. Il y en a un qui a réussi à sortir après un long combat. Il n'a que 19 ans, Yacouba Traoré. Il est sorti deux semaines après, on est venu le chercher au petit matin. Alors qu'il avait trouvé un travail, qu'il avait trouvé un nouveau logement loin de Beaumont. Ils sont venus chercher à 2h du matin pour une affaire qu'ils avaient déjà préparée bien avant, pour le détruire psychologiquement. Bagui Traoré, on fait exprès de le ramener à chaque fois dans la même cellule où il a appris la mort de son frère Adama Traoré. Exprès. C'est ça l'autoritarisme. Qu'on soit bien d'accord, on le vit déjà. Je terminerai sur ça. Le procureur de la République de Pontoise, quand Adama Traoré est mort, il a dit tranquillement, devant BFM TV, qu'Adama Traoré était mort à cause de l'alcool. Mensonge. On a, grâce à la mobilisation du quartier, des habitants, du comité, il a été muté aujourd'hui. C'était quand même l'ancien chef de l'antiterrorisme à Paris. Il était à Pontoise pour être en retraite. Il a voulu couvrir la mort d'un jeune citoyen français.
Donc là, je me suis permise de couper une toute petite partie de son discours. Il revient parce que la semaine dernière, on en a causé en fait de tous les multiples interprétations qui ont eu lieu dans les médias avec toutes les versions fausses sur la mort d'Adama Traoré. Et du coup, j'envoie la toute fin de son discours.
Les plus grands médecins, les plus grands spécialistes de la drépanocytose, de la sarcoïsode. Toutes les maladies citées, ils ont dit noir sur blanc, ils l'ont écrit, vous l'avez vu là, c'est sorti avant-hier, ils l'ont dit, Adama Traoré n'est pas mort suite à toutes ces maladies. Ils ont dit que c'était scientifiquement faux et qu'on remet même en cause l'éthique médicale des médecins qui ont osé écrire ça. Donc, il termine en disant que la seule piste vers laquelle il faut aller, c'est vers l'asphyxie mécanique. Il faut regarder de plus près les conditions d'interpellation et la technique d'immobilisation qui a été employée, comme ça a été le cas pour Lamine Dieng, comme ça a été le cas pour Aliziri, comme ça a été le cas pour de nombreux autres, malheureusement, tués entre les mains de la police et de la gendarmerie. Et j'espère que je verrai tout le monde ici quand il sera question des luttes des quartiers populaires et des morts dans les quartiers populaires. Merci.
Bon, il prend au trip, hein, le discours, il est beau. Voilà. Ça ouvre sur la deuxième partie de cette émission, sur le racisme. Bon, de toute façon, on est dedans, là. On est dans le sujet aujourd'hui.
Et moi, ça me fait penser à un truc un peu dans l'actualité, parce qu'il parlait des frères d'Adama Traoré qui étaient en prison. Et juste dans l'actualité, suite à ce qui s'était passé à Condé-sur-Sarthe, dont on avait parlé il y a 15 jours avec un extrait de l'émission de L'Envolée. La grève des matons à Condé-sur-Sarthe, c'est fini, mais par contre, ils ont obtenu le retour des fouilles des familles par palpation pour les familles qui viennent voir les détenus au parloir. Donc on peut imaginer encore une fois quelles familles seront fouillées, enfin, quels seront les critères de fouille, tout ça. Voilà, du coup, moi j'ai juste envie de dire que toute grève n'est pas bonne à soutenir. Est-ce que ça me pose la question, est-ce qu'on soutient les matons ou les flics quand ils font grève? Voilà. Et puis c'est un peu le lien aussi avec le fascisme dans le milieu syndical. Voilà. En tout cas, je vous conseille d'aller écouter la dernière émission de L'Envolée qui parle un peu de tout ça.
Ok. On va faire une petite pause musicale.
Sensibilisé par train de vie aisé, hectare à dévaliser, martyr dans la moiteur des alizés. visée, moteur d'immense fortune réalisée, amateur de belles lettres et de poésie, frappeur de tambour avec fracas et frénésie, grand penseur encensé, petite frappe assassin, baroudeur résistant, quémandeur assisté, humble sujet du tout-puissant, se référant au livre saint. Individu indécent qui dissimule à peine, et leur sexe et leur sein, et leur sang est souillé, leurs chants sont brillants, dépouillés d'humanité, leurs yeux sont fuyants. Apprenons-leur à prier Jésus-Christ sans crier, et trier la canne à sucre tout en souriant. Oui, la nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La nature a fauté, s'est planté en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. Que disent la science et la messe, toutes les grandes puissances du monde et la presse, que cette noirceur en présence dans la pièce nous est inférieure comme la chienne et la naisse. Bon chrétien, j'acquiesce, volontiers j'angoisse, les os glacés placés devant ce corps sans grâce, et ses cuisses sont trop grosses, ses narines embrassent chacune des extrémités de sa pauvre face. Ses fesses sont une énorme masse, conséquence, sa silhouette n'a aucune forme de classe. Sa peau, une carapace de cuir sans souplesse, lèvres si épaisses qu'elles en deviennent grimaces. La pommette est saillante, chers clients, clientes, ne vous arrêtez pas à cette laideur criante. Les jungles de l'Afrique, lointaines et luxuriantes, nous offrent des spécimens de différentes variantes. Leurs femelles sont fertiles et vaillantes, dociles et idiotes, font elles-mêmes leurs paillotes. Les mâles ont côtoyé éléphants et coyotes, nourris de chasse, de pêche et de cueillette. Éloignez quand même vos fillettes. Parfois le sauvage plonge dans la démence en rage, peut réduire un humain en miettes, mais le passage du fouet le ramène au silence. Oui, la nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée, la créature ratée, la créature ratée, la créature ratée, être la créature ratée.
Donc on va continuer pour l'instant sur le même sujet avec Charline qui va nous lire en fait un extrait d'un bouquin qui s'appelle Marianne et le garçon noir. Absolument. Il est écrit par qui d'ailleurs ça
Alors, c'est un livre qui a été écrit collectivement. Du coup, il y a plusieurs personnes, essentiellement des hommes noirs. Et il est écrit sous la direction de Léonora Miano, qui est du coup auteur. Voilà. Du coup, l'extrait que je vais lire, il est écrit par Insa Sané, qui est un rappeur et écrivain. Et l'extrait s'appelle « Fais ce que l'on attend de toi ». Si tu es trop souvent au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est que tu es certainement un homme entre 15 et 32 ans, que tu vis à la périphérie du centre-ville et que tu es noir. Je le sais parce qu'il y a peu, j'étais un jeune noir de banlieue. Un enfant illégitime de la République française, un bâtard né d'un viol. Usons d'euphémisme et appelons ça la colonisation. Pour beaucoup, cette notion n'est qu'un mythe. Être noir en France, ça ne se raconte pas, ça se vit. Ce matin-là, je me trouvais sur le parvis de la gare du Nord. Il était bientôt 11h. Peut-être que si j'avais été prendre mon train pour entrer directement dans ma ville, à l'extérieur de la ville, au lieu d'allumer une cigarette, tout cela ne serait jamais arrivé. Peut-être que si ma compagne ne m'avait pas annoncé le résultat de son test de grossesse, je n'aurais pas eu envie de fumer. Peut-être aurais-je dû refuser d'offrir une tige à ce jeune blanc tout à fait courtois. Peut-être qu'il faut arrêter de se raconter des histoires. J'ai tendu le paquet et l'inconnu s'est servi. Puis j'ai allumé sa cigarette. Le gars m'a remercié et s'en est allé précipitamment. Au même moment, trois hommes en uniforme sortaient de la gare. J'ai croisé leurs regards et j'ai su que la présomption d'innocence est un droit dont je ne bénéficierai jamais et que le banal contrôle d'identité ne s'applique pas aux gens de ma condition. Éteins ta cigarette. Si le fonctionnaire se permettait de me tutoyer, c'est que je n'avais décidément pas le bon pédigré. Seulement cette fois, j'ai oublié l'éducation de ma mère, le pardon, le sourire, la joue tendue. Je devais faire ce que l'on attendait de moi. Seulement qu'attend-on de moi ? Que je courbe les chines ou que je sois le stéréotype du gamin sauvage ? Pour moi, il s'agissait de dignité, pas encore d'honneur. Je vais vous demander de me vouvoyer, ensuite de m'expliquer quelles raisons vous poussent à me contrôler. L'un d'entre eux m'a lancé « Je suis la police, t'obéis ». Il devait avoir 10 ans de moins que moi et donnait l'impression d'en vouloir à la terre entière. Si la police c'était lui, alors j'avais une excuse pour ne plus faire profil bas. Monsieur, vous n'êtes pas la police, mais un agent de police. Je vous demande à nouveau la raison de cette interpellation. Je m'adressais à un mur. Certain que j'avais plus à perdre que lui, il s'est mis à me bousculer. Rien de méchant, juste des petits coups contre mon épaule, ce qui te rabaisse, qui suggère que tu n'es pas de taille, ce qui humilie. J'ai muselé ma colère et déclaré « Je suis disposée à vous suivre jusqu'au poste. Là-bas, je présenterai mes papiers à votre supérieur. » Ils ont fait mine de respecter ma requête, mais une fois hors de portée des caméras de vidéosurveillance placées au-dessus du parvis de la gare, et profitant de renforts, ils m'ont brutalement plaqué face contre terre. Je n'ai opposé aucune résistance. Que voulez-vous que je fisse ? Que je mourusse ? Je me suis trouvée acculée. Quelqu'un pesait sur ma tempe avec ses mains afin de maintenir mon visage au sol, tandis qu'une autre personne appuyait ma nuque avec la partie supérieure de son tibia. Pendant ce temps, un agent maintenait son genou entre mes omoplates. Un autre pliait mes bras dans mon dos, et un ou deux individus se chargeaient de mes jambes. Je me suis rapidement mis à étouffer. On m'a passé les menottes au poignet, mais ça ne suffisait pas. Par réflexe, je me suis débattue pour éviter l'inévitable. Ils ont resserré leur emprise. Et j'ai senti des fourmis parcourir ma gorge et courir macabrement jusqu'à mon front. Les agents n'avaient pas besoin de me frapper pour que mes forces m'abandonnent. J'ai senti le souffle mauvais de mes assaillants. J'ai voulu lâcher. J'allais mourir, c'était sûr. Ma mère a toujours eu peur pour moi. Je savais pourquoi. Pour ces gens-là, je ne serais jamais qu'un jeune de moins à surveiller, de la viande faisandée, sinon un dommage collatéral. Il a fallu la réaction salutaire d'une femme dans la foule des témoins. Une femme dont jamais je ne reconnaîtrai le visage. Seule sa voix demeure encore en moi. Elle a hurlé « Faites quelque chose, ils vont le tuer !» Un homme a rétorqué « S'il en est là, c'est qu'il l'a bien cherché. » Il avait sans doute raison. Que diable m'avait-il pris de naître dans la peau d'un noir ? J'étais plus mort que vivant quand les policiers m'ont enfin relâché leur étreinte. J'étais incapable de marcher, alors ils m'ont traîné en me soulevant par les bracelets. À vrai dire, les douleurs, je ne les ai pas senties tout de suite. Je revenais de bien plus loin. Ce n'est qu'une fois au poste que j'ai enfin eu le loisir de profiter pleinement des morsures de l'intervention musclée. Je ne sentais plus mes bras, sinon je n'aurais pas supporté le fer serré autour de mes poignets. Mais ce n'était pas le pire. Le pire fut de subir les propos des agents dont mes impôts servaient à payer le salaire. « On vous accueille gentiment et c'est comme ça qu'on est remercié ?» J'ai compris que de mon obstination à vouloir être aussi invisible que la plupart des blancs dans ce pays de blancs, ils allaient me faire payer le prix. Après cette nouvelle humiliation, on m'a obligé à avancer, les bras toujours soulevés en arrière à la force des menottes, vers le poste principal. Le fameux agent à l'origine de ma mésaventure ne cessait de répéter « Alors maintenant, tu vois qui fait la loi ?» Et obstinément, je lui rétorquais qu'il ne saurait être à la hauteur de ce que j'avais déjà enduré. Nous étions deux imbéciles dans un dialogue de sourds, mais l'un avait le pouvoir de terroriser l'autre. Il m'a confié aux soins de ses collègues. Mais c'était comme échapper à la potence pour être conduit à l'échafaud. Sans aucune autre forme de procès, j'étais désormais placé en garde à vue. Je me suis dévêtu sous les moqueries de mes geôliers. Ce n'était que le début d'un long calvaire, mais il me fallait être fort. J'ai fait comme si les commentaires au sujet de mon sexe ne m'atteignaient pas. Cette manière qu'ils avaient de vouloir m'émasculer me rappelait étrangement des témoignages que j'avais pu lire au sujet des génocides. Seulement dans un état où le crime est institutionnalisé, l'atrocité avance masquée. J'ai fait comme si ces outrages participaient d'une comédie dont j'étais le nègre. On m'a confisqué mon manteau, mes lacets, ma ceinture et ma montre, comme si j'avais le pouvoir de me suicider avec son bracelet. Après la fouille, on m'a menotté à un banc dans le couloir. J'affrontais les regards accusateurs des agents qui passaient. S'il en est là, c'est qu'il l'a bien cherché. L'adrénaline s'était estompée et j'ai commencé à sentir des brûlures embraser mes épaules, mes articulations, mon visage. Mais il fallait que je reste fort, même si j'avais honte, même si je n'avais plus le droit d'être un homme. Personne ne devait se repaître de mes larmes. On pouvait tout me prendre, mais jamais ma dignité. On est venu me détacher pour m'accompagner dans un bureau. En rentrant, j'ai croisé l'agent qui m'avait tutoyé. Il affichait un sourire narquois. Deux fonctionnaires m'ont accueilli. Ils ont relevé mes empreintes génétiques et digitales avant de me tirer le portrait. J'ai aussi été entendue. J'étais encore sonnée, mais j'ai réussi à remettre les événements dans le bon ordre. Apparemment, je n'avais pas fait ce que l'on attendait de moi. On m'a conduit dans une cellule. Elle était sombre. La moiteur rêche mêlée à cette sorte d'émanation venue d'outre-tombe faisait oublier le froid qui y régnait. Des lattes de bois couraient le long des murs et servaient de banc ou de lit. Seulement impossible de s'asseoir ou de s'allonger convenablement compte tenu de l'étroitesse du dispositif. Je me suis finalement résigné à camper à même le sol, dans la poussière et la puanteur. Comment en étais-je arrivé là? Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai vu le jour dans une ancienne colonie française. À cette époque, j'ignorais que j'étais noire. Mon père a été contraint de fuir son pays natal parce que ses convictions politiques étaient sanctionnées par la République démocratique de l'illustre Senghor, gendre du saint Charles de Gaulle. En débarquant dans les valises du paternel, je savais m'exprimer en français. Néanmoins, j'ai eu besoin d'une remise à niveau afin de me familiariser avec les termes noiro, mal blanchi, macaque, négro. Il m'en a fallu du temps pour maîtriser toutes les nuances qu'offre le gros Robert. Je ne m'y suis jamais accoutumé, et mon père non plus. Ce dernier s'était convaincu qu'un jour il rentrerait chez lui, un jour, après la mort du dictateur, peut-être. Seulement que ferait-il de nous, ces rejetons élevés entre deux mondes? Je crois que jusqu'à sa mort, j'en ai voulu à mon père de m'avoir entraîné dans cette aventure ambiguë. Ici, j'étais le sale négro, au Sénégal, j'étais le France nabé. Nulle part, je n'étais chez moi. Et quand mon père disait qu'un jour, on rentrerait chez nous, je voulais lui répondre que je désirais être partout, chez moi. Maintenant, mon géniteur était sous terre et j'allais peut-être devenir père.
Merci. Alors, on va changer vraiment de ton. En fait, j'ai pas mal d'extraits pour entrer un peu dans finalement. On a pas beaucoup parlé des violences d'État. Mais la violence, on va dire, ordinaire, celle que nous, en fait, on provoque, et par exemple, qui et sur quoi ça repose? Quelle image, qu'est-ce qu'on a intégré comme préjugé sur les Noirs? Et notamment, j'ai vu un sondage qui m'a assez épatée. La question, déjà, c'est, selon vous, quelles sont les caractéristiques des personnes ayant une couleur de peau noire? Seulement 35% des gens disent « cette question n'a pas de sens » et refusent de répondre à la question. Donc les 65% autres répondent à cette question. Et du coup, les réponses, en général, ils sont bons pour le sport, la musique, la danse, ils sont plus forts physiquement. Des choses comme ça, qui peuvent être des fois, du point de vue même de la personne qui le dit de manière positive, alors que on voit bien ce que ça veut dire derrière, et aussi tout ce qui est le noir est constamment associé à la nature contre la culture, et donc un truc de la déshumanisation, elle passe par là, par le fait que finalement on est plus intelligent, plus civilisé, etc., et qu'il y a une parole qui est niée, et donc ça peut passer par ce qu'on appelle de la négrophilie. J'adore les noirs qui dansent bien, qui machin, qui truc. Donc, qui sont à la place que j'ai décidé qu'ils sont. Et on va entendre un extrait. Alors, ils se parlent un peu dessus et tout ça, mais je trouvais qu'ils étaient assez marrants. C'est une chaîne YouTube, elle s'appelle How Are You? Et ça dure à peine 3 minutes. Et on entend un dialogue entre une femme et un homme qui nous dit. En gros, comment reconnaître les nécrophiles et partir en courant. On va les écouter.
Premier point, la personne elle va dire, j'aime pas les noirs, mais toi. Genre trois petits points, mais toi, j'aime bien.
L'exception.
Toi, t'es l'exception à la règle, t'es la première noire à qui je m'intéresse, t'es le premier renoi qui me plaît. Genre ça déjà, ça c'est la première.
Alors,
ça, j'ai tellement entendu de ma vie. Non, plein de renois en fait. Que des renois, mon frère.
Au deuxième point, la personne elle va très certainement te donner un surnom par rapport à, avec ta couleur de peau. Mon
chocolat, Tibouti. Oh, hey, t'es tout doux.
Ouais, taiseur.
Ouais, bah taiseur.
Tu vois, il y a des gens comme ça qui te lèvent. T'as pas envie de te couper les cheveux, faire un dégradé, tu tapes une boule à zèle. Donc toi, tu dors bien le lendemain. Elle t'envoie un moment bébé, ça va mon Kinder surprise. Oh, mais laisse-nous.
C'est un truc de ouf en fait. Hey, vous êtes trop à l'aise,
C'est vexant.
C'est vexant. On t'appelle mon chocolat, wesh. Ah. Est-ce qu'on est comestible?
Troisième
point. Celui-là.
Éliminatoire. Dossier suivant.
Ouais, direct. Non, mais là, ce point-là, c'est quand la personne, elle va venir te parler, elle va dire directement « Ouais, moi, en fait, je sors qu'avec des noirs. Ouais. » Genre, c'est la première chose qu'elle va dire. Moi, je sors qu'avec des noirs, en fait. Je fréquente que des noirs.
T'as même pas encore fait connaissance avec elle.
Tu sais même pas comment elle s'appelle.
C'est ça. C'est même pas son âge.
Moi, je sors qu'avec des noirs. Non, ça, c'est éliminatoire. Vous voyez ça, négrophile. Direct.
Quatrième point, si la personne lorsqu'elle te complimente et que tout tourne autour de ta couleur de peau, laisse le dossier se mouvre. Ne fatigue pas.
Abandonne directement.
T'as une belle peau.
Ta peau elle brille.
En fait, le matin tu
caramel.
Tu te vois pas dans la glace.
Grave. Ta peau elle est belle. J'aurais bien aimé avoir la peau comme toi. Et en plus moi un jour on m'a dit quoi? On m'a envoyé un DM. On m'a dit ouais. Pourquoi tu te maquilles? T'as pas... Vous les noirs vous avez pas besoin de vous maquiller. Mais qui t'a dit? Qui t'a dit tu m'as vu te démaquiller? Tu sais comment je suis? Pourquoi tu dis vous les noirs? En fait, vous idéalisez trop les personnes noires. Genre, en fait, non. Nous aussi, on a des défauts. Nous aussi, on a des problèmes de peau. En fait, c'est pas genre tous les noirs qui ont des belles peaux. Ou toutes les personnes blanches qui ont des belles peaux. Ou vice versa, en fait. Faut arrêter vos stéréotypes, en fait. En dernier point.
Oh là là.
Non, celui-là, il picote.
Pas, ça me blesse.
C'est quand, en fait, la personne, elle va te mettre en valeur toi, mais elle va dénigrer les autres personnes noires. Soit tu complimentes, soit tu fermes ta bouche, en fait.
Ferme ta bouche. Ouais, rester poli, hein.
Non, mais. Oh, tu complimentes pour aller dénigrer les autres, ouais.
Ça sert à quoi, ça sera quoi?
Eh, autant rien dire en fait, c'est autant fermez vos bouches.
Bien, fermez vos bouches. Il parle un peu les uns par-dessus les autres, mais ils sont marrants. Du coup, maintenant, en fait, on va aller plus parce qu'en fait, au cours des dernières émissions, on a pas mal parlé des clichés autour des hommes aussi noirs et de leur et comment ils étaient traités. Mais là, on va rentrer davantage sur les clichés sur les femmes noires et on va écouter le témoignage. Elle s'appelle Naya et elle a une chaîne YouTube aussi. Et donc, ça s'appelle. Alors, j'ai pris qu'un extrait. La vidéo s'appelle 13 clichés sur les femmes noires. Ça dure 4 minutes. On va l'écouter.
La dernière fois, je descends en bas de chez moi et je vois un white. Et ce white me dit « Vous pouvez passer, madame. » Mais je connaissais déjà ce white et il ne le savait pas. Et du coup, je dis « White, mais on se connaît déjà. » Bah quoi, il y a bien certains qui disent le mot « black ». Dire le mot noir n'est pas un gros mot, c'est juste une couleur de peau. Dire le mot black ou personne de couleur n'est pas plus socialement acceptable. Ça, je le mets sous le coup de la maladresse ou de l'habitude. Il y a même certains noirs qui utilisent le mot black pour se désigner. Mais dans ma vie, j'ai entendu des choses, un tas de stéréotypes et de clichés dus à ma couleur de peau. Parfois, c'est mignon ou même drôle, mais ça peut être vraiment énervant ou choquant. Tu es belle comme une lionne. Arrêtez la comparaison avec les animaux, arrêtez ça, ça n'est pas un compliment. Et c'est valable pour les expressions « agile comme une gazelle »,« caractère de tigresse » et j'en passe. Pourquoi vouloir nous comparer à des animaux sauvages qu'on peut possiblement trouver dans certains pays d'Afrique? C'est comme si je comparais un blanc aux animaux qu'on peut possiblement trouver en France. T'es sexy comme un pigeon, sauvage comme un chat de gouttière, malin comme un petit rat du métro. Est-ce que tu connais Aminata? Elle habite dans le 93. Non, j'ai jamais fait l'amour avec une noire.
C'est comment?
Eh bien, nous, les noirs, avons un vagin mangeur de pénis.
Tu rentres, tu sors plus, frère.
Un vagin fait à base de noix de coco et de feuilles de bananier. Non, plus sérieusement, ça se passe comme ça. J'appelle tous mes ancêtres et leur demande d'accepter cette offrande. Cette offrande de mon corps à Patrick, ici présent. J'invoque l'Afrique, ma terre nourricière, celle qui m'a vu naître.
En plus, il paraît que vous faites des poses sexuelles spéciales.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, celle-là, c'est notre préférée.
Quoi? Ça donne pas envie? Vous savez pas ce que vous manquez.
Tu connais Thierry? C'est un entier qui vit près de Saint-Denis.
Non.
On souffre tellement dans ton pays. Les enfants qui meurent de faim. La guerre. Déjà, l'Afrique, c'est pas un pays. Ensuite, merci. Merci beaucoup. Merci de toute cette compassion pour mon peuple si pauvre et opprimé. Mais tout ce que vous voyez à la télé n'est pas forcément tout ce qu'on trouve en Afrique. Vous savez, en Afrique, il y a des voitures, des immeubles, des chefs d'entreprise, des universités, des avocats, des télévisions, des autoroutes. Même s'il est vrai que des régions de pays africains sont frappées par la pauvreté, l'Afrique n'est pas un grand désert avec un enfant pauvre et affamé en plein milieu, comme le relaye la plupart des médias dans leurs images.
T'es noir et t'as même pas de fesses. Lol.
Les femmes noires n'ont pas toutes d'énormes fesses. Et la gagnante pour la découverte qui révolutionne le monde de la science est Naya, pour avoir prouvé, après de longues recherches, que les femmes noires n'ont pas toutes un gros cul. Merci, merci, merci Miami, merci Los Angeles, merci ma maman. C'est un honneur pour moi. Qui aurait cru que moi, jeune femme de banlieue, aurait fait une découverte aussi surprenante que celle-ci? Je suis sûre que tu connais Abdou, le vendeur de maïs qui habite en bas de chez moi. Il te ressemble trop, c'est un truc de ouf. Non! Mais t'es vachement intelligente pour une noire, toi. Ceci est censé être une phrase pour draguer. As-tu déjà dépassé les frontières de ton hall d'immeuble? Vraiment? Je peux toucher tes cheveux? Est-ce que si je te laisse les toucher une bonne fois pour toutes, tu foutras la paix aux autres noirs de cette planète? Parce que je suis vraiment prête à me sacrifier pour les autres. Et en fait, tu viens d'où?
Du 95? Et toi?
Toi, ce que t'écoutes, c'est plutôt Maître Gims, Black M, ce genre de choses, quoi. Mais oui. Et j'ai un ami asiatique qui n'écoute que Gangnam Style toute la journée, en boucle. Toute la journée. T'es jamais vu comme une noire. Eh bien, comment, chérie? Parce que c'est ce que je suis.
Voilà, voilà. Pour les cheveux, je vous conseille une excellente émission sur Radio Piquet qui s'appelle C'est pas que des cheveux. Je mettrai des liens où on entend parler des cheveux. Et c'est un truc de fou parce que je sais, tu vas peut-être pouvoir témoigner. Est-ce qu'on te touche les cheveux régulièrement, tes oui. cheveux crépus?
Oui, très souvent. Après. Bon, là, ça va mieux parce que j'ai appris à me battre un peu contre ça, mais sinon, ouais, ça arrive qu'on me touche les cheveux sans trop me connaître. Genre, ah, salut, j'aime beaucoup tes cheveux, je peux les toucher? Ben non.
Là, c'est une expérience que moi, j'ai pas, par exemple. On me moi touche, enfin, des inconnus ne me touchent pas les cheveux.
Toi, t'en as pas en même temps.
C'est quand même complètement dingo, c'est ce truc de se permettre en fait de toucher les cheveux d'un inconnu. C'est ouais, c'est totalement fou, je trouve. C'est assez incroyable. Voilà, il y a tout un truc autour des cheveux qui sont aussi considérés comme négligés, comme pas bien, pas professionnels, pas je ne sais quoi. Enfin, c'est voilà, des cheveux.
Oui, et puis ça peut arriver dans la rue aussi, quoi. Enfin, moi, ma sœur, on lui a déjà touché les cheveux une fois dans la rue. Genre, juste croisé un mec, il a trouvé ça rigolo, il a mis ses mains dans ses cheveux, quoi.
Voilà. C'était pas la fête de l'Huma, d'ailleurs. Voilà, la fête de l'Huma.
La fête de l'Huma, il y a deux ans.
Voilà, tu voulais nous parler d'un documentaire aussi?
Oui, qui s'appelle Ouvrir la voie, qui est écrit et réalisé par Amandine Gay et qui est vraiment génial, en humble avis. Et du coup, c'est un documentaire, je ne sais pas exactement combien il y a de femmes dedans, mais elle interroge du coup des femmes qui ne sont pas blanches, qui sont identifiées comme noires, et qui expliquent, qui parlent de leur expérience en France, du coup, en tant que femmes noires. Et ben, y a plein de questions qui sont soulevées, on parle beaucoup des cheveux, du coup, et de plein d'autres trucs, et même de discrimination entre personnes noires. Et c'est vachement... c'est hyper enrichissant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais alors, c'est pas un documentaire qu'on peut trouver très facilement sur Internet, je crois. Mais y a des bonus sur YouTube que je vous invite à aller voir tout de suite. Enfin, à la fin de l'émission, mais dès que vous le pouvez. Parce que c'est vraiment hyper intéressant.
Ok. Voilà.
Du coup, Ouvrir la voie à Amandine Gay.
Ouais, moi je confirme, moi je l'avais vu à Douarnenez, pas le dernier, mais l'avant-dernier festival. Et c'est vraiment un documentaire qui fait réfléchir sur notre racisme intégré qu'on a tous et toutes. Mmh. Et alors, il était passé aussi à Morlaix dans le cadre des semaines contre les discriminations l'année dernière. Il n'est jamais passé à Brest encore. Du coup, on en parlait là, vendredi, on se disait que peut-être ce serait chouette un jour de se pencher peut-être avec les studios pour faire venir Amandine Gay et projeter ce documentaire. Mm. Mm.
Alors du coup, il y a un truc que je connaissais pas en fait, pour parler des discriminations liées spécifiquement aux femmes noires, il y a ce qu'on appelle la misogynie noire. Et du coup, on va écouter encore un extrait YouTube de Kayol, un snapshot qui était déjà passé, justement que j'avais pris un extrait sur les cheveux. On l'entendait, et qui va expliquer ce que c'est et qui va encore nous donner quelques clichés sur les femmes noires.
On attribue la parenté du mot misogynoir à l'activiste Moira Bailey, qui l'a définie comme la haine dirigée particulièrement contre les femmes noires. La misogynoir, c'est le fait de subir des attaques venant de notre genre et de notre couleur de peau, ce qui signifie qu'on peut être la cible des hommes blancs, des femmes blanches et même des hommes noirs. La misogynoir, c'est une des nombreuses preuves que lorsqu'on est une femme noire, on ne peut jamais gagner. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, non, la misogynie noire n'est pas un problème exclusivement cantonné aux États-Unis. Et oui, les femmes noires sont victimes de misogynie noire ici, en France. Comme beaucoup d'outils de domination et de discrimination encore vécus aujourd'hui, la misogynie noire trouve ses origines à l'époque de la colonisation. En effet, pendant la colonisation et l'esclavage, les Blancs ont entamé une des premières grosses campagnes de marketing de l'histoire, qui consistait, en gros, à déshumaniser l'homme noir afin de déculpabiliser les colons et les Européens profitant du système colonial. Bah oui, c'est logique. Tu veux pas te sentir coupable de réduire des personnes en esclavage si on t'a convaincu que c'était des animaux et pas des personnes. La femme noire n'a évidemment pas fait exception à ce traitement et a été considérée comme un être sauvage, bestial, ce qui permettait aux hommes blancs de perpétrer toutes sortes d'actes sur elle avec le soutien de leurs femmes qui, déjà à l'époque, n'étaient pas nos alliés.
You will sell the niggers.
Alors, non seulement c'est plus facile d'envoyer l'homme blanc se défouler sur des femmes noires, mais en plus, ces mêmes hommes blancs ont décrété par je ne sais quel procédé scientifique que les femmes noires étaient, au même titre que les hommes noirs, moins sensibles ou carrément insensibles à la douleur. Déshumanisation, bonjour! Dans la pop culture et dans la vie quotidienne, on a droit à un tas de clichés misogynoiristes. Voici donc une petite liste non exhaustive de ces clichés. La vénale, l'angry black woman, la ratchet, du style Porsche d'Empire, la mama sévère et castratrice, ça va de la femme de ménage dans Tom et Jerry à Cookie d'Empire. Vous pensez qu'on est épargné de tout ça en France? Non. Niafou, Niara, Fatou Flingué, ça vous rappelle quelque chose? Beyoncé Koulibaly, Rihannon, Tantine Dafalgan, Tantine Feralgan, puis tous les sketchs qu'on voit sur internet, les hashtags du style tweet comme les Renois en long manteau plus chapeau. En plus de ces clichés, la misogynie noire se manifeste aussi par l'exotisation, par la fétichisation, les ma gazelle, ma tigresse, ma lionne, ou encore par l'hypersexualisation des femmes noires, ou au contraire par le rejet total des femmes noires parce que trop masculines, demandez à Serena et à Venus Williams, ou encore parce que, merci le colorisme, les traits de ces femmes sont trop négroïdes, ou parce que cette femme est trop noire. La misogynie noire, c'est aussi l'animalisation insultante, comme quand cette petite fille a traité Christiane Taubira de guenon. C'est aussi, en contexte médical, le fameux syndrome méditerranéen. Cherchez sur Google « syndrome méditerranéen », vous allez voir, c'est édifiant. Et ce qui découle de ce syndrome méditerranéen, c'est-à-dire une mauvaise prise en charge des patientes, parce qu'elles exagéreraient leurs douleurs et leurs symptômes. La misogynie noire, c'est aussi les stérilisations forcées des femmes noires, que ce soit à La Réunion ou en Israël, par exemple, parce que ces femmes feraient trop d'enfants. La misogynie noire, c'est aussi les doubles standards entre les femmes noires et les femmes blanches, Rihanna twerk? Oh, mais elle est vulgaire. Miley Cyrus twerk? Ouais, c'est une femme libre. Ouais, en somme, la femme libre géométrie variable. C'est aussi quand Kim Kardashian te sort un tuto pour faire les tresses Kim Kardashian signature et que c'est trop hype sur elle ou sur les femmes blanches. Par contre, ça devient ghetto, Kaira, inapproprié, pas professionnel pour les femmes noires. Les coiffures des femmes noires, pas appropriées pour les femmes noires. C'est quoi ce non-sens? C'est aussi quand on se moque des lèvres pulpeuses des femmes noires, mais qu'on encense les lèvres pulpeuses de Kylie Jenner au point qu'on a envie de les avoir en faisant le Kylie Jenner Challenge. C'est pas un peu paradoxal? Et je ne vous parlerai même pas des fesses.
You know a nigga's biggest weakness is a white girl with a fat ass.
Avec l'afroféminisme, parce que la misogynie noire est un phénomène qui touche spécifiquement les femmes noires, les hommes noirs et les femmes blanches ne se sentent la plupart du temps pas concernés et ne les défendent pas. Et c'est de là que vient l'utilité de l'afroféminisme.
To be woman and black is to be magic, is to be the witch that wouldn't burn, is to survive the white men with their needles and nooses, and the black men with their hearts in their knuckles. To be black and woman and alive is to be resilient. My very existence is defiance. But they want a good woman, a silk skinned woman soft enough to break, a woman whose vein is blue enough to get into the club, who knows her way around the inside of a washing machine,
who's the color of happily ever after, a woman who knows how to burn off her skin without screaming, without making a sound.
Du coup, quand on parle afroféminisme, il faut aussi parler intersectionnalité. Et du coup, bah, je vais aussi laisser, en fait, elle l'explique très bien. C'est Fania du collectif Moissy, c'est issu d'un... C'est un débat suite à une conférence que j'avais passé déjà des extraits la semaine dernière, et c'était en gros c'est une conférence à la fac avec des féministes blanches, et c'est assez houleux comme débat. On sent que c'est vraiment très difficile pour les femmes présentes féministes qui ont lutté pendant des années, qui sont assez âgées pour le coup, et qui refusent de voir qu'elles sont passées à côté de certaines luttes. Et donc Fania du collectif Moissy explique pourquoi, qu'est-ce que c'est l'intersectionnalité et pourquoi c'est important.
Alors, je suis Fania, je fais partie du collectif Moissy, mais j'étais aussi directrice d'une publication que Franck a, qui s'appelle Assiégée, qui est une publication faite par des personnes racisées intersectionnelles, qui passe de toutes les questions. Voilà, c'est celle-ci, c'est un gros, et on parle de tout, des travailleuses du sexe, etc. Donc, sur la question de l'intersectionnalité, c'est un concept qui a été créé par une femme noire, pour parler de ces questions, une femme noire queer. Donc, ça prend en compte ça, et il n'y a pas de simplification, vu que les vies, elles sont complexes. Donc, mettre la notion de privilège et comment s'articulent les dominations, parce que je pense que les gens pensent que l'intersectionnalité ou les luttes politiques comme Moissy, ce sont des luttes d'identité, identitarisme. Il n'y a pas de question d'identité. C'est une question politique. C'est une question politique, comment les structures s'imbriquent et comment l'oppression s'imbrique. Donc il faut sortir de ce truc individuel que ce soit le sexisme, le racisme, le patriarcat au sens large, où j'inclus l'homophobie et la transphobie, ce sont des choses individuelles. Ce sont des structures où les gens qui ont des privilèges, en tant que femme cisgenre, j'ai des privilèges sur les personnes transgenres, je suis bénéficiaire de ces privilèges, je suis bénéficiaire de ce privilège, et il faut s'en rendre compte dans mes interactions. Et justement, nos vies sont extrêmement différentes. Je n'ai pas la même vie en tant que haïtienne que Annette Ghanéenne ou du Congo, ou des personnes de Moissy qui sont musulmanes, primo arrivantes, ou etc. Donc on a des vies différentes, mais ce qui fait qu'on peut se retrouver ensemble, c'est que quand on rencontre des Noires canadiennes, haïtiennes, américaines vivant au Sénégal, c'est qu'il y a des réalités oppressives qui se répètent parce qu'il n'y a aucun moyen d'échapper à l'oppression systémique. Il n'y a aucun moyen d'échapper à ça. Quand on articule le rapport de qu'est-ce que c'est d'avoir un diplôme et on gagne en classe, mais le privilège de race, on l'a toujours pas. C'est-à-dire qu'on peut gagner quelque part, mais on l'a pas. Donc il n'y a aucune, il n'y a jamais de simplification dans l'articulation. L'articulation permet aussi de voir les rapports qu'on a avec, dans nos propres communautés pour ne pas avoir des choses oppressives pour les autres, vu qu'on a des situations dominantes en fonction de qui on parle, d'où on parle et à qui on parle. Donc là, je ferme un marxiste, mais les positions situées des acteurs est extrêmement importante lorsqu'on produit de la théorie, lorsqu'on milite. Il est extrêmement important de rappeler d'où on parle, pour qui on parle, et c'est pour ça que la remise en question de qui produit le savoir, pour qui, est assez important, parce qu'on connaît des gens, des chercheurs extrêmement connus, qui ont monopolisé la parole sur les personnes racisées, qui achètent les archives coloniales, qui les louent à des personnes racisées pour faire ces recherches, et cette monopolisation a des conséquences en termes de capital économique, de capital symbolique, et donc il y a des conditions pratiques. Donc moi je suis un peu marxiste, donc c'est important de revenir aux positions situées des acteurs. Donc moi je parle de ma position de femme noire queer, et d'autres personnes parlent de leur position, mais quand on est à l'extérieur de ces positions, c'est extrêmement difficile d'articuler en nous transformant comme des objets simples de recherche. Donc voilà, l'intersectionnalité n'a aucune simplification, c'est extrêmement complexe, et c'est pour ça que c'est complexe, c'est parce que on se bat contre des organisations antiracistes qui sont misogynes, contre des organisations féministes qui sont racistes, contre l'inter-LGGG, c'est-à-dire blanc cis, blanc gay, qui sont anti-queer of color. On se bat contre tout ça, et en même temps, c'est-à-dire que tout le monde a des raisons de détester les gens qui sont pour l'émancipation totale, contre tous les systèmes oppressifs et anticapitalistes et décoloniales, etc. Donc ça rend les choses toujours plus compliquées dans notre collectif et dans les collectifs intersectionnels.
Bon, elle parle vite, hein, ça va vite, mais c'est intéressant. Dans le rapport que j'avais lu sur le racisme, là, la lutte contre le racisme et tout ça, il disait qu'en fait, l'intersectionnalité, c'est pas pris en compte dans le droit français. Donc, en fait, en gros, j'avais noté donc le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale a recommandé à la France en 2015 de veiller à ce que les différentes formes de discrimination soient convenablement traitées par les tribunaux, ce qui n'est pas le cas, et d'assurer la formation du personnel judiciaire et de ses avocats afin de leur permettre de traiter et de prendre en compte les différents fondements juridiques pour lesquels les requérants réclament leurs droits. Et en fait, ils se retrouvent à devoir choisir. J'estime avoir subi des discriminations, je porte plainte, mais en fait, on te demande de choisir si c'est parce que t'étais noire, si c'est parce que t'étais... si parce que tu es une femme ou je ne sais quoi, tu peux pas... le droit français comprend pas l'idée d'intersectionnalité, de cumul, en fait, de différentes formes de discrimination. Ce qui est quand même...
Le droit français, mais le milieu militant non plus. Je veux dire, encore aujourd'hui, que ce soit dans le milieu féministe au sens large, institutionnel plutôt blanc, ou dans le milieu militant anticapitaliste en général, dès que des personnes se mettent en colère et revendiquent des besoins de non-mixité, leur oppression soit prise en compte, on est toujours encore aujourd'hui taxé d'identitarisme, de communautarisme, et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a plein de textes en ce moment qui sortent pour cracher sur leur intersectionnalité, et ces textes, ils sont écrits par qui ? Par des hommes blancs, cis, hétéros ? Enfin, on en est encore toujours là aujourd'hui, quoi. Mmh. Mais voilà. C'est un combat permanent.
Ouais. Alors, on va écouter encore quelqu'un. Alors, je vais retrouver... qui est... donc, c'est la chaîne YouTube La Toile d'Alma. Et ça s'appelle « Et si ce n'était pas l'intention qui compte ?» Et ça parle, en fait, de... notamment de l'humour, de ce qu'on croit être drôle des fois. Et ouais, une petite mise au point qui est assez intéressante aussi.
Et si ça n'était pas l'intention qui compte ? Alors ne faisons pas comme si ça ne nous parlait pas, on y a eu tous droit, surtout quand on voit l'actualité humoristique du moment. Je vais illustrer ça avec une situation concrète. Ça m'arrive hyper souvent de rencontrer quelqu'un pour la première fois et cette personne commence directement à faire des blagues pourries, à s'essayer à l'ironie ou au second degré avec moi. Je parle pas d'un pote proche ou quoi, hein. Je parle vraiment de quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Ça peut être un collègue ou pire, un supérieur. Alors la blague sort au bout de 2 minutes à peine. En général, ma réaction c'est... Pardon ? Tu essaies de me parler ? Et alors là, c'est le rétropédalage le plus total, ou la minimisation de la situation. Oh, tu sais bien que c'est de l'humour. Oui, je sais, c'est une tentative d'humour ratée. Oui, je sais, tu ne voulais pas me blesser, ça n'était pas ton intention. Mais si tu me blesses, qu'est-ce que ça veut dire exactement que je suis la seule à devoir travailler sur ma sensibilité ? Tu connais pas ma vie, tu connais pas mes difficultés, et même si tu ne pouvais pas savoir à l'avance ce qui allait me blesser, tu es en aucun cas légitime à déterminer ce qui devrait ou pas me blesser, en fait. Alors dis pardon et on passe à la suite. Alors je vois direct venir les insoumis de pacotille. Oh là là, c'est encore le politiquement correct. Les femmes veulent prendre le pouvoir. Attends, t'as ma liberté d'expression. Alors pour faire court, non, oui et non. Des questions? Ce que je trouve affligeant, c'est le travail émotionnel à sens unique que ça implique. Des gens par exemple qui vont tout le temps faire des blagues pourries sur ton origine, qu'elle soit étrangère ou modeste par exemple, mais le jour où tu leur sors...
De toute façon tu peux pas comprendre hein, t'es riche, tu peux pas comprendre hein, t'es blanc, tu peux pas comprendre hein, t'es un mec, de toute façon tu peux pas comprendre hein, t'es hétéro, tu peux pas comprendre, t'es cisgenre, tu peux pas comprendre, t'es valide, tu peux pas comprendre hein, t'es athée.
Ou tout ça combiné, avec un léger rictus pour décrire une situation factuelle hein. Ok, le mec il est pas habitué à être racialisé en face à face comme ça, mais on vit dans un monde racialisé hein, c'est pas un choix vraiment, personne l'a choisi mais il est. À ce moment-là, tu es souvent littéralement enseveli sous une avalanche de fragilité. Et ça, c'est ce que j'appelle la fragilité des privilégiés, ou fragilité avec un Y. Souvent des personnes qui ne sont pas habituées à être remises à leur place de privilégiés dans le système, justement parce que c'est à ce moment-là qu'on redevient tous frères et sœurs, voir la vidéo numéro 2. Et on a droit à des « Mais pourquoi tu me stigmatises comme ça ?» Alors, je répondrai la même chose qu'aux ados avec lesquels je bosse. Déjà, si tu en envoies, sois prêt à en recevoir. Et ensuite, je te parie que plus tu es privilégié, moins tu es armé pour faire face à ça. Et c'est sans parler du fait que quand tu tapes sur des personnes qui font partie de groupes qui sont minorisés, tu reproduis, factuellement, des dynamiques de pouvoir qui sont déjà en place et qui sont déjà incontournables et à la limite du supportable. On n'échappe pas à l'oppression, même par l'humour. Au mieux, on remet en question le statu quo ou on invite à réfléchir. Et si l'humour est une arme et est politique, choisir sa cible est aussi un choix politique. Quand on ne sait pas se retenir de faire des blagues pourries de ce genre-là quand on rencontre quelqu'un, pour moi ça discrédite complètement et ça fait perdre la légitimité pour pouvoir se qualifier de quelqu'un de sympa si on n'est pas capable d'engager une conversation agréable pour les deux parties avec un ou une inconnue. Parce que je te dis tout de suite, hein, si je dois choisir entre ton ego et mon confort, c'est perdu d'avance pour toi. Hein. Ma fragilité, je bosse dessus depuis l'enfance, depuis que j'ai été identifiée comme femme et comme noire. Et je la revendique, cette fragilité, dans une société où clairement elle n'a pas le droit de citer sans que je passe pour une qui se victimise ou qui passe son temps à geindre. Ma question au pseudo-spécialiste de l'autodérision est la suivante. Et vous, vous commencez quand ? Voilà, j'ai l'impression qu'on a crevé un abcès là, ça va mieux tout d'un coup, non ?
Ça va mieux, non ? J'aime bien la fragilité avec un Y. Et c'est vrai que en fait c'est hyper puissant et c'est exactement la même chose pour tout. En fait, enfin, quand on parle de sexisme, c'est dur aussi pour un mec de porter le poids de tout un truc de milliers d'années de domination masculine et en fait on n'aime pas on a vraiment c'est quelque part plus simple de voir ça les dominations qu'on subit que de voir les privilèges qu'on a, en fait. C'est totalement invisible, on n'y pense pas, on le ressent pas. Et c'est pour ça que c'est vraiment un truc vraiment important de parler de ces privilèges et de s'en rendre compte à tous les niveaux, quoi, que ce soit donc, en situation de handicap, il y a vraiment tout à regarder en fait et cette prise de conscience là, c'est ça qui nous permet aussi d'essayer de pas reproduire quoi toute cette bouse intellectuelle là, qu'on a quoi. Et du coup, j'ai un autre extrait beaucoup plus court, donc toujours du collectif Moissy sur les privilèges. Et puis peut-être qu'on va s'arrêter là, en fait, et on avait encore deux, trois trucs. On va voir. Bon, on va déjà écouter sur les privilèges. Ça dure une minute, là, ça va être très court.
Je pense que c'est très, très important de déconstruire son propre privilège. Nous, on est des femmes noires, donc c'est facile, en fait, pour nous de regarder les blancs. Enfin, c'est facile. Non, c'est pas facile pour tout le monde. Mais on peut regarder les blancs, les femmes blanches, les hommes blancs, on peut regarder les hommes noirs et leur dire, vous avez des privilèges, il faut les déconstruire. Ça veut pas dire que nous, on n'a pas des privilèges. Enfin, Fania les a évoqués. Rien que le fait d'être valide, le fait de pouvoir parler ici. Enfin, on a... La liste des privilèges est très importante. Et je pense que c'est vraiment primordial pour nous de reconnaître nos propres privilèges en tant que féministes. Je pars du principe que tout le monde ici est féministe. Si vous voulez que les personnes qui maintiennent le patriarcat abandonnent leurs privilèges, il va falloir que vous aussi, vous vous regardiez dans le miroir et que vous abandonniez, que vous reconnaissiez, que vous nommiez les privilèges dont vous jouissez.
Voilà. Y a une femme qui s'appelle Peggy McIntosh, qui en 88 a listé, je crois que c'est la première à parler de privilèges, en fait, des privilèges blancs, et enfin la notion déjà de privilèges, et puis qui a listé en fait toute une série de privilèges blancs, comme ça. Et il existe aussi des outils, on en avait testé un avec Piquet, ça s'appelle le pas en avant. C'est une série d'affirmations comme ça où en fait on est tous sur une même ligne de départ et en fait on doit avancer ou reculer en fonction des affirmations qui sont à la fois, ça parle de classe sociale, ça parle de capital culturel, économique, race, je sais plus, genre, orientation sexuelle, toute une série. On s'était rendu compte, par exemple, que le handicap était complètement absent de ces affirmations-là. Mais on n'empêche que c'est des choses qui sont assez intéressantes, même si c'est assez violent aussi de le faire, parce que en fait, très vite, il y a des gens qui vont très loin dans la pièce et
d'autres qui reculent beaucoup.
Voilà, et en général, c'est un homme blanc tout au bout. Et s'il y a des personnes racisées dans le groupe, se retrouve assez facilement à l'arrière. C'est assez flagrant, mais n'empêche que ça permet quand même de visualiser très vite des choses assez vraies, quoi. Voilà. Je propose qu'on garde la suite la prochaine finale, mais ça va être beaucoup plus court, mais comme ça change de sujet un peu, je me dis que voilà, on va parler aussi notamment du fait d'avoir enlevé le mot race dans la constitution, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Voilà.